On va lire ce que l'ange Gabriel a annoncé à Marie. Donc, Luc, chapitre 1er, verset 26. Rappelons quand même que l'ange Gabriel n'est pas venu de sa propre initiative devant Marie, mais il a été envoyé par Dieu. Bien dire que les anges sont envoyés par Dieu. Verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Que Dieu soit béni. Au verset 37, il y a ce verset où il est écrit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Ce matin, j'aimerais, au travers de diverses naissances insolites de la parole de Dieu, mettre en relief que rien n'est impossible à Dieu. Il y a des passages de la parole de Dieu, notamment dans les évangiles, qui donnent qui communiquent la même foi. Par exemple, dans Matthieu 19, où il est écrit que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et lorsque Jésus dira à ses disciples qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer, dans le royaume de Dieu, les disciples ont répondu, mais alors qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Et Jésus dira, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Il peut faire des miracles extraordinaires, des signes, des prodiges, des guérisons, des délivrances. Il a tout créé. Il est le Créateur encore aujourd'hui et il ne cesse pas de créer. Tout est possible à Dieu. Amen. Alors, rien n'échappe à sa capacité. Et s'il y a des choses qui sont impossibles à Dieu, ce n'est pas en relation avec sa puissance, à sa capacité ou à la faisabilité que Dieu pourrait ne pas avoir pour faire une chose, mais c'est en relation avec son identité, avec sa nature. Comprenez qu'il est écrit aussi qu'il n'est pas possible que Dieu mente. Il n'est pas possible. Ce n'est pas en relation avec sa puissance, ni avec sa capacité, mais c'est en relation avec sa nature, avec son identité. Mais au niveau de sa puissance, de ses capacités, rien ne lui est impossible. Il peut tout faire, que son nom soit glorifié. Merci Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu, et j'aimerais ce matin, au travers de quelques naissances insolites, eh bien, mettre cela en relief. Nous en avons ici deux qui sont mentionnées, celle, bien sûr, de Jésus, et puis celle de Jean, qui allait devenir Jean le Baptiste. Il est question ici, donc, de cette annonce de l'ange Gabriel, qui a été envoyé par Dieu auprès de Marie, afin que s'accomplissent les prophéties. Eh bien, c'était un signe que Dieu avait donné à Israël, un signe que l'on retrouve annoncé prophétiquement par Ésaïe au chapitre 7, verset 14. Voici, il donnera un signe. Eh bien, la jeune fille sera enceinte, c'est-à-dire la Vierge sera enceinte. Un signe, c'est quelque chose qui vient d'un fait qui se passe et qui est tout à fait anormal et qui attire l'attention. Tous les miracles ne sont pas forcément des signes, toutes les guérisons ne sont pas forcément des signes, mais il y a des faits qui sont en dehors de la logique humaine, en dehors de la logique scientifique, de la logique médicale et de tout ce qu'on pourrait trouver comme logique, et qui font que quelque chose qui se passe, eh bien, attire notre attention. Et Dieu veut nous parler au travers de cela. Dieu veut nous parler au travers de cela. Il y a là une circonstance qui fait que cette naissance est tout à fait insolite. C'est une femme qui est vierge. Et là, donc, étant vierge, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et lorsque, eh bien, ça s'est su que Marie fut enceinte, il y a eu des soupçons à son égard, puisque cela était tout à fait anormal. Même Joseph, lorsqu'on lit certains textes de la parole de Dieu, on voit que Joseph lui-même a eu un moment de soupçon, puisqu'il s'est proposé de rompre en secret avec elle. Ils étaient fiancés. Il lui est peut-être venu à l'idée, à la pensée, qu'elle avait déjà eu des relations avec un homme. C'est pour cela, eh bien, que ne voulant pas la diffamer, il s'est proposé donc de rompre en secret avec elle, jusqu'au moment où le Seigneur a su, bien sûr, parler au cœur de Joseph en lui apprenant, bien sûr, que cet enfant venait du Saint-Esprit. Cet enfant venait du Saint-Esprit. Il est vrai que quand il y a quelque chose de tout à fait insolite et que Dieu nous parle au travers de cela, la première réaction que l'on a, c'est toujours une sorte de perplexité qu'on a parce que ça n'est jamais arrivé, ou en tout cas ça nous est jamais arrivé à nous. On l'a peut-être entendu dire de certaines autres personnes, mais nous l'avons jamais vécu. Et cela peut-être nous interroge, peut-être il y a un doute, comme Thomas qui a aussi douté à l'annonce de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mais si Dieu cherche à nous interpeller, c'est qu'il a quelque chose à dire. Et après ce temps de perplexité, ce temps de soupçon, ce temps de doute, eh bien, Dieu vient parler à notre cœur. Et là, la foi s'enracine en nous. Elle s'enracine en nous. La deuxième naissance tout à fait insolite aussi, c'est celle de Jean-Baptiste. Celle de Jean-Baptiste. Après avoir parlé de la plus merveilleuse des naissances, puisque c'est celle du Messie, de Jésus le Christ, qui avait été annoncé, eh bien, des millénaires plus tôt, puisque déjà elle avait été annoncée par Dieu à Adam et Ève après la chute. Et on voit ici que Christ est venu au temps marqué. Il y a donc une autre naissance, c'est celle de Jean-Baptiste. C'est annoncé par l'ange au verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vie. vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. On va lire maintenant, juste toujours dans le même chapitre, mais le passage précédent, on va lire au verset 13, toujours du premier chapitre. Et là donc l'ange s'adresse à Zacharie, qui allait devenir donc le père de Jean-Baptiste. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Plusieurs se réjouiront de sa naissance. » On peut arrêter là, on connaît ce passage. Ici, on voit que l'ange va annoncer cette naissance, ta femme t'enfantera un fils. À ce moment-là, Zacharie et Élisabeth sont déjà très âgés. Ils ne peuvent plus espérer humainement avoir un enfant. Jean-Baptiste, nous le savons, est celui qui fut aussi annoncé dans les prophéties pour préparer la venue du Messie dans son ministère et dans son message. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce passage et il nous l'a dit au verset 13, ta prière a été exaucée. Depuis combien de temps Zacharie a-t-il fait la prière à Dieu d'avoir un enfant? Zacharie et Élisabeth étaient loin de s'imaginer, un, qu'ils auraient un enfant, et deux, que cet enfant est celui dont les prophètes avaient parlé, qui prépare la venue du Seigneur. Zacharie lui-même a douté. On connaît ce passage et c'est pour cela que Zacharie fut muet jusqu'au moment où on lui a demandé quel nom aura son enfant après la naissance. À partir de ce moment-là, après avoir écrit sur une tablette, eh bien, il a retrouvé l'usage de la parole. Mais depuis combien de temps avait-il fait cette prière? A-t-il toujours prié pour cela? On peut vraiment penser qu'au début de leur mariage, alors qu'ils étaient tout jeunes, qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, se sont-ils mis à ce moment-là en prière? Ils savaient que Dieu exauce les prières. D'autres passages de la parole de Dieu étaient là pour alimenter leur foi, notamment eh bien, la naissance du prophète Samuel. Cette femme qui était stérile depuis quelques années, Anne, et qui implorait Dieu pour lui faire cette grâce de pouvoir enfanter. Et au bout d'un certain moment, alors qu'elle répandait son cœur, eh bien, cette femme a été exaucée. Donc il y avait des passages comme cela de la parole de Dieu qui pouvaient alimenter leur foi, notamment encore les parents de Samson aussi, qui eux aussi ont été exaucés dans leur prière. Vous savez, Dieu répond à ce genre de prière. Je me rappelle un couple qui était venu me voir, ça faisait déjà quelques années qu'ils étaient mariés, et puis ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, donc ils envisageaient donc de faire un enfant par procréation assistée. Et donc, mais quand même, ils étaient venus donc me voir et dit, on va prier le Seigneur. On va prier avant tout le Seigneur. Bon, eux aussi avaient prié. Mais comme ils étaient dans une démarche de demander la prière, eh bien, on a prié ensemble. Alléluia, Dieu soit béni. Ils n'ont pas eu un enfant, ils ont eu des jumeaux. C'est double bénédiction. Que Dieu, comme pour Rebecca qui ne pouvait pas avoir d'enfant, Seigneur, là aussi, béni d'une double bénédiction. C'est vrai que le Seigneur est celui qui répond à cette prière. Mais pour Zacharie et Élisabeth, ils ont prié, puis sont devenus vieux. Une fois devenus vieux, ont-ils continué cette prière? Probablement que non. En tout cas, la parole de Dieu ne le dit pas. Mais vous savez, une prière même formulée des années auparavant, quand bien même nous, on aurait oublié qu'on a prié pour cela, Dieu s'en souvient. Ta prière a été exaucée. Des années après avoir prié pour cela, Dieu répond à la prière. Alléluia. Dieu n'oublie pas nos prières. Et j'aimerais vraiment que cela puisse nous aussi nous encourager. Et au moment de l'exaucement de la prière, au moment où Dieu nous dit « ta prière a été exaucée », on pourrait là aussi réagir comme Zacharie et douter. Parce que les circonstances ne sont plus favorables à cet accomplissement. Je suis devenu vieux, ma femme n'est plus en âge d'avoir un enfant, elle a dépassé cet âge. Mais quand bien même, ne soyons pas surpris. Nous avons prié, même si les années ont passé, et que les circonstances ne sont plus favorables à cela. Dieu est grand parce qu'il n'est pas amnésique, il n'oublie pas nos prières, et il a la puissance d'exaucer nos prières. Car quoi ? Verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Il y a d'autres naissances insolites dans la parole de Dieu. J'ai cité, bien sûr, la naissance du prophète Samuel. Il y a Samson. Mais parmi les autres naissances, il y a, bien sûr, Rebecca, j'en ai parlé. Mais parlons ensemble d'Abraham et de Sarah, qui sont bien connus aussi. Dans Genèse 18, verset 11. On peut même lire le verset 10. Allez. L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Ça, c'est humainement. Elle ne pouvait plus espérer d'avoir d'enfants. Mais nous le savons, rien n'est impossible à Dieu. Verset 12, elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Elle pensait ne pas être vue, elle était de l'autre côté de la tente là. Et on ne peut rien cacher au Seigneur. Un rire. Remarquez qu'elle n'a pas été seule à rire. Je crois que Isaac portait bien son nom, parce que Isaac, ça veut dire rire. Abraham aussi a ri, avant son épouse. Avant son épouse, au chapitre 17, verset 17. Lorsque Dieu lui apprend aussi à Abraham que Sarah aura un fils, alors qu'est-ce qu'il fait ? Abraham tomba sur sa face, il rit. Il a tellement ri qu'il en est tombé par terre. Il tomba sur sa face, il rit. Il dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh qu'Ismaël vive de ta face. Oui. Abraham aussi n'a pas pris Dieu au sérieux. Est-ce que nous prenons Dieu au sérieux? Quand bien même il nous annoncerait quelque chose de tout à fait insolite. Là, en plus, c'est une promesse. C'est une promesse que Dieu réitère à Abraham. C'est pas la première fois que Abraham a reçu de Dieu cette promesse. Mais les années ont passé. Les années ont passé. Il est vrai que quand on parle d'Abraham, on parle souvent de sa foi, de son espérance. C'est vrai que c'est un homme de foi, un exemple de foi, Abraham. Mais ça ne veut pas dire que c'était un homme sans faille. Ça ne veut pas dire que sa foi était sans faille. On voit ici que même cet homme de foi, qui était un exemple de foi, n'a pas pris à ce moment-là Dieu au sérieux. Sa femme aussi n'a pas pris Dieu au sérieux. Ils ont ri tous les deux. Ils ont ri. J'aimerais vous dire, il y a des choses qui peut-être nous étonnent de la part de Dieu, mais l'Éternel nous dit ici, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel, car rien n'est impossible au Seigneur. Et s'il nous a fait une promesse et que même les années ont passé, nous savons que Dieu est grand pour tenir ses promesses, que son nom soit béni. Alléluia. Est-ce qu'on continue? On pourrait trouver d'autres naissances insolites de la parole de Dieu. Il y a une que je voudrais parler avec vous, c'est celle de Caïn. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alors, en quoi cette naissance est insolite? Adam et Ève n'ont pas eu de problème pour avoir un enfant. Ils ne sont pas dans la situation de Zacharie et Élisabeth, ils ne sont pas vieux, ni de Abraham et Sarah. Il n'y a pas d'empêchement à ce qu'ils aient un enfant. Ils l'ont eu tout à fait normalement et naturellement. Là, ou peut-être il s'est passé quelque chose pour eux d'insolite dans le sens de nouveau, et c'est ça que j'aimerais mettre en relief dans cette naissance-là, c'était que c'était la première fois qu'une femme accouchait. Alors aujourd'hui, quand une femme accouche, on l'amène à la maternité. Il y a des gens qui sont formés pour cela. Voilà. Les enfants naissent dans de bonnes conditions. On a l'habitude, eh bien, de mettre au monde des enfants. Donc, ça se passe en généralement bien, surtout dans nos pays. Dans certains pays, c'est peut-être plus compliqué. Mais là, essayons de nous mettre à la place d'Adam et Ève. Première fois qu'une femme est enceinte. Et à un moment donné, bien sûr, il y a eu les contractions. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est pas toujours évident. Hein. Je sais que moi, le premier enfant qu'on a eu, j'ai dit au gynécologue, je me sens pas bien, je sors. Hein. Voilà. Donc, ouais, des fois, les papas, ils se sentent pas bien. Hein. Bon, ça leur est permis de rester à l'accouchement, mais moi, j'ai préféré sortir parce que sinon, peut-être, je serais tombé dans les pommes. Mais imaginons-nous à la place d'Adam. Jamais vécu ça. Hein. Ève, comment on va faire? Comment on va faire? J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alléluia. Et quand il y a quelque chose de nouveau comme cela, quelque chose qu'on n'a jamais fait, alors peut-être, bien sûr, il y avait les animaux, Adam et Ève ont peut-être vu... comment, eh bien, les brebis, comment, voilà, les animaux mettaient au monde, mais quand même, c'est pas pareil. C'est quand même pas pareil. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Quand il y a quelque chose de nouveau, le Seigneur est toujours celui qui nous accompagne. Et si Dieu nous met à cœur quelque chose, même si on l'a jamais fait, même si c'est tout à fait nouveau et on se dit, mais comment on va y arriver, comment on va faire? Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. On n'a jamais fait rien de pareil. Rien n'est impossible à Dieu. Il est celui qui, non seulement nous met à cœur des choses, même si on ne les a jamais fait, on peut se poser des questions, bien sûr, Mais n'oublions pas que celui qui nous met à cœur des choses est celui aussi qui nous donne les moyens de pouvoir l'accomplir. Il est celui qui nous en donne la capacité. Il est celui qui nous donne l'intelligence pour pouvoir faire le savoir-faire. Il est celui qui nous donne les talents pour pouvoir faire les choses nouvelles à laquelle il nous a appelés. Il y a des choses qu'on a peut-être entendu dire qui se sont faites à l'autre bout du monde, mais nous, on ne les a jamais vécues. Le Seigneur est celui qui nous accompagne, que son nom soit glorifié et béni. Merci Seigneur. Une autre, et ce sera la dernière, Moïse. Là aussi, pas de problème pour avoir un enfant, surtout qu'ils en avaient eu deux autres avant. Le frère aîné et la sœur aînée de Moïse sont nés avant, donc un couple qui n'a pas eu de problème pour avoir des enfants, sauf que le petit dernier est né dans une conjoncture un petit peu compliquée. Compliquée à cause des autorités de l'Égypte avec Pharaon, qui avait décidé, parce que le peuple d'Israël devenait trop nombreux, donc de mettre à mort tous les enfants mâles qui naîtraient. Voilà. Donc Aaron, son frère aîné, n'a pas eu ce problème, il est né avant le décret de Pharaon, mais Moïse est né à ce moment-là, une conjoncture défavorable pour le peuple d'Israël. Vous savez, quand il y a des conjonctures difficiles, la natalité en général, pas toujours, mais en général est en baisse. Les gens, les couples réfléchissent. Voilà. Comment va vivre notre enfant? Voilà. C'est difficile, comment on va l'élever, etc. Quand les conjonctures sont opposées, sont pas favorables, la natalité en général est en baisse. Mais cet homme et cette femme ont décidé de continuer à enfanter, et pas simplement eux. On voit aussi que les enfants d'Israël ont continué à enfanter. Et puis, bien sûr, les sages-femmes des Hébreux faisaient en sorte que l'accouchement se passe le plus rapidement possible et cachaient les choses. Et elles avaient dit aux autorités de l'Égypte que les femmes hébreues étaient plus vigoureuses que les Égyptiennes et qu'elles accouchaient avant l'arrivée des sages-femmes. Donc on voit ici que ça n'a pas empêché la natalité, ça n'a pas empêché en tout cas Moïse de venir. Il y a parfois, il est vrai, des contextes qui font que rien n'est favorable à l'Église, que la conjoncture est difficile. Il n'y a plus de liberté, non seulement il n'y a plus de liberté, mais il y a l'opposition qui est là, comme dans certains pays aujourd'hui. Mais l'Église continue encore à enfanter, que son nom soit glorifié. Merci Seigneur, parce qu'il est celui qui donne la vie, il est celui qui, malgré les conjonctures difficiles, malgré toutes les tentatives du diable d'empêcher la croissance de l'Église, comme il a voulu empêcher la croissance d'Israël, eh bien l'œuvre de Dieu continue. Car rien n'est impossible à Dieu. Le diable se déchaîne, mais ce ne saurait troubler le Seigneur qui est sur son trône. Alléluia. Et celui qui a appelé l'Église à croître et à s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre, il est aussi celui qui donne à l'Église cette capacité. Vous savez, après Ésaïe 53, où il est question... de Jésus souffrant, il y a le chapitre 54. Que nous dit le chapitre 54? Et ce sera notre passage de conclusion. Ésaïe 54. Il va être encore question d'enfantement dans Ésaïe 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, etc. Ta postérité envahira les nations. Ésaïe 53 nous parle du Messie souffrant, qu'on retrouve bien sûr à la croix, celui qui a été frappé pour nos péchés. Mais nous savons que la mort n'a pas le dernier mot. Comme nous l'avons aussi écouté dans ce chant, où il est parlé non seulement du Messie souffrant, mais aussi de la résurrection. Il est celui qui est le Dieu de la vie, la résurrection et la vie. Et ici, eh bien, nous sommes appelés à nous réjouir, même si jusqu'au jour, notre vie a été comme stérile, que nous n'avons pas pu enfanter quelque chose, nous n'avons pas pu enfanter l'œuvre de Dieu, nous n'avons peut-être pas pu même enfanter d'âme, peut-être même, on pourrait dire, mais l'Église est comme stérile, mais réjouis-toi. Le Seigneur est celui qui est le Dieu de la vie, alléluia. Et nous savons qu'il est celui qui peut amener une telle croissance que il nous faut élargir l'espace de notre tente. Comme lorsque des parents ont plusieurs enfants, jusqu'à 2 enfants, à 3 enfants déjà, il faut peut-être commencer à envisager d'acheter une voiture un peu plus grande. Alors si on passe à 4, il faut acheter une voiture plus grande, hein, vous savez. Élargis l'espace de ta tente. Voilà, faut agrandir la maison, élargir l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Alléluia, ne retiens pas. Que le Seigneur soit béni, qu'il fasse venir la vie. Il est le Dieu de la vie, car rien n'est impossible à notre Seigneur. Puissions-nous rester dans cette foi, même si on a l'impression que jusqu'ici on a été stérile. Le Seigneur est celui qui est fidèle dans ses promesses et dans son alliance. À lui soit la gloire, Jésus. Amen. On va rendre grâce au Seigneur. Merci Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Nous voulons rester dans cette foi, même si tout s'oppose à notre foi, même si tout s'oppose aux promesses et à la parole que tu nous as donnée, même si les conjonctures sont défavorables, Seigneur, nous savons que tu nous accompagnes et que rien n'est impossible à toi et que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car tout est possible à Dieu. Merci Seigneur Jésus, nous voulons entrer dans cette dimension de foi. Merci pour ces exemples de la parole de Dieu, Seigneur. Et nous voulons aussi que nos vies puissent enfanter d'autres vies, Seigneur, que nos vies puissent enfanter des âmes, Seigneur, que des âmes puissent passer des ténèbres à ton admirable lumière. À toi soit toute la gloire. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci de bénir le reste de ce week-end, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tu sois honoré, glorifié, Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.